Alors, 6h03, jeudi 8 mars, journée de la femme, qu'on souligne évidemment encore ce matin. Et on va jeter un coup d'œil pour débuter sur les prévisions météo. Il y a eu de la neige telle que prévu et sincèrement, en tout cas, ce que j'ai pu expérimenter pour aller au travail ce matin, c'est pas un gros problème, là. Il faut être un peu plus vigilant sur les rues secondaires, mais ce matin, ça roulait très bien. Une accumulation, une première là, de 5 cm avec un maximum prévu aujourd'hui de zéro. Ça peut être venteux au cours de la journée. En soirée, la nuit prochaine, un autre 2-4 cm qui devrait s'ajouter avec un minimum de moins 2. Et la neige va cesser finalement progressivement demain. On prévoit du temps couvert avec un maximum de 1 degré. Pour samedi, ça change assez rapidement, là. Parfois, on nous parle de temps gris, couvert. Là, c'est nuageux, mais il y aura, dit-on, quelques moments plus ensoleillés, avec un maximum de 3 degrés. Et pour dimanche, on prévoit une alternance de soleil et un maximum de 4 degrés. Avant de faire la revue de presse ce matin, vous l'avez entendu, c'était hier la publication des sondages de Code d'écoute radio pour la période fin d'année et donc Noël, janvier, février. Et sondage qui confirme encore votre présence matinale, votre fidélité qui nous touche beaucoup. Et à chaque fois que ces sondages-là sont publiés, on se demande est-ce que les gens continuent d'être présents? Est-ce que les mouvements dans l'auditoire évoluent? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Et même si vous ne pouvez pas nous contacter tout le temps directement, on perçoit quand même un certain nombre de choses à la lecture de ces sondages. Et ce qui est touchant, je le mentionnais au début, c'est de voir cette fidélité de sondage en sondage, d'une part, le fait que vous êtes présent, que vous nous suivez et que vous semblez, en tout cas, apprécier ce qu'on fait, ce qui, évidemment, rejaillit sur toute l'équipe. Et je partage avec autant les gens que vous entendez que l'équipe de l'ombre, l'équipe de recherche, de mise en onde et tout ça, votre appréciation de notre travail. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et comme c'est un peu le mantra de l'émission, quand on a un résultat, puis qu'on est premier, puis on est tous évidemment contents de ça, ça dure que quelques minutes parce qu'on sait qu'il faut travailler, puis qu'on a des devoirs à faire, et ce, au quotidien. Donc, encore une fois, merci. Bon, dans les nouvelles ce matin, je vais commencer par le train de deux montagnes. Je pense que c'est une farce. Là, on se fait faire la morale sur l'importance du transport collectif. C'est même plus le transport en commun, là, c'est le transport collectif. On prend des mesures contre les automobilistes qu'on culpabilise. Puis là, on dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour vous déplacer par les trains de banlieue, par les autobus, par le métro? Je rappelle deux, trois faits, là, juste cette semaine. D'abord, on a appris cette semaine qu'on était en train de battre des records pour ce qui est des interruptions de service dans le métro. Deuxièmement, hier, juste hier, la ligne Deux Montagnes. C'est hier matin, on avait des problèmes. On en a eu toute la semaine, là, comme toutes les semaines d'ailleurs, dans le réseau des trains de banlieue. Et hier, là, c'est comme tombé en vrac dans ma boîte de courriel des usagers qui se sont retrouvés donc, en fin de journée de travail, là, prêt à rentrer à la maison, avec encore une fois le dernier train de Deux Montagnes, 17h25, qui a été annulé. Celui de 17h50 qui a été retardé pendant un bout de temps. Et là, il y a un auditeur qui m'écrit en disant « Il n'y avait pas de tempête, il n'y avait pas de grand froid. » Puis là, il commence à se dire « Mais là, il y aura de la neige ce soir, puis demain, ça va ressembler à quoi? » Alors, le pari ce matin, est-ce qu'il y aura délai, interruption de service pour les trains de banlieue? Et Marc va surveiller ça. Si vous en êtes témoin vous-même, vous nous le direz. Moi, je suis prêt à parier que oui. Tu sais, il a neigé, là, ça doit encore déranger. Puis l'autre chose, c'est que ça cause des embêtements, c'est sûr, mais c'est que c'est tellement fréquent depuis le début de l'année que des gens, un, se disent ben, « c'est pas fiable comme service. » Et deuxièmement, moi, je paye le plein prix. Puis on m'offre un service de mauvaise qualité. Et il n'y a pas de compensation. On sait que RTM ne veut pas entendre parler de ça. Là. On nous sort la cassette de... On est mieux investir pour régler nos problèmes. Le ministre à qui on va parler, c'est une coïncidence, mais quand même, a demandé des explications, surtout un rapport. Puis là, je le sais qu'il va recevoir le fameux communiqué de « Nous travaillons jour et nuit ». Mais c'est un service minable, en particulier dans le cas de Montagne. L'autre chose qui m'a un peu fait sursauter ce matin, puis encore là, est-ce que tous les détails sont vrais? Je ne le sais pas, mais si c'est le cas, là, disons que ça illustre, appelons ça, le manque d'humanité dans le réseau de la santé. Journal de Montréal, un homme de 82 ans, c'est un prêtre, qui est transporté en hôpital d'une résidence vers l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, 82 ans, il a fait un infarctus, puis après ça, il a eu une pneumonie. Alors là, on le transporte, il a passé d'abord 24 heures sur une civière à l'urgence, et il a demandé à un médecin s'il pouvait être transféré dans un lit. Ça a pris 12 heures de plus. Et il y a des employés qui sont venus le chercher. Savez-vous où ils l'ont amené? Dans le sous-sol, près de la morgue, en face des toilettes. C'est reposant comme endroit. Et on lui a dit que c'était le seul espace disponible dans l'hôpital. Même pas de sonnette pour être capable, en cas d'urgence, de rejoindre quelqu'un. Pour prendre l'image, là, on l'a dompé dans le sous-sol de l'hôpital. Un monsieur de 82 ans qui vient de faire un infarctus. Là, évidemment, l'hôpital, la misère à valider l'information. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas dans le détail, mais c'est vous ce qu'il a fait. Il a pris le téléphone, il a fait le 911, puis il dit « Venez me sauver ». Alors, tu sais... Puis là, je ne blâme pas le personnel nécessairement. Là, ils sont pris, c'est du quotidien pour eux autres. Fait que des fois, dans le réseau de la santé, on déplace des patients pour les cacher, pour avoir des beaux chiffres à montrer. Puis d'autres fois, ben une chance que le monsieur avait son cellulaire en passant. À 82 ans, là, tu te fais domper dans un sous-sol d'hôpital, près de la morgue. Tu sais, je dis que c'est intéressant. Alors, voilà pour cette nouvelle. Bon, dans d'autres sphères de l'actualité, le président Trump a eu hier toute une journée. Premier dossier qui nous concerne, les tarifs douaniers sur l'aluminium et l'acier. Ça a commencé il y a une semaine, en disant qu'il fallait que l'Amérique produise son acier, qu'il y avait une compétition déloyale de la planète, quand on sait que le principal fournisseur est quand même le Canada, et qu'il imposait donc des tarifs sur l'acier et l'aluminium, des tarifs quand même importants. Et là, il a répété toute la semaine qu'il n'avait pas l'intention de faire marche arrière, il n'avait pas l'intention de reculer, que ça devait se faire. Tous les émissaires de la Maison-Blanche sont allés dans des émissions de télé pour dire évidemment que c'était inévitable. Puis là, hier, le même conseiller du président, qui s'appelle Peter Navarro, a dit que dans le cas du Canada et du Mexique, ça pourrait être retardé. Parce que là, on est en principe supposé connaître les détails aujourd'hui ou demain, là. Et après l'annonce officielle, ça entre en vigueur normalement dans les 15 à 30 jours suivant l'annonce. Puis là, la position, c'est, ben, on négocie le renouvellement de l'ALENA. S'il n'y a pas d'entente, on va vous imposer ces tarifs sur la gueule et on va s'en servir là, dans la négo comme monnaie d'échange. Et on sait que M. Trump a perdu son principal conseiller économique. On sait qu'il y a beaucoup d'opposition parce qu'il y a des gens qui sont convaincus que l'effet de ces mesures va être destructeur sur l'économie. Et encore ce matin, je regardais là, l'Europe qui se prépare à répondre si les mesures sont imposées, donc de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium. Et il y a tous les recours qui existent devant les organismes internationaux, mais aussi des mesures qui pourraient toucher, par exemple, le tabac, qui pourrait toucher les canneberges, le jus d'orange, bref, une série de produits de consommation qui pourraient être frappés en Europe de tarifs douaniers quand même assez élevés. Et puis, Hier, tu regardais ça, là, il était pris dans cette tourmente, les marchés boursiers qui ne réagissaient pas très bien. Et là, tu apprends que Stormy Daniels, vedette du porno, qui prétend avoir eu une relation ou des relations sexuelles avec Trump avant qu'il soit président, c'était après la naissance de son fils, son avocat aurait payé 130 000. Elle se présente devant le juge en disant « Je veux parler ». Parce que l'entente de confidentialité, avec des faux noms, là, hein? Faux noms d'avocat, le faux nom de Trump, là, il paraît qu'il aime bien ça, lui. Vous savez qu'il a déjà appelé un journaliste en se faisant passer pour l'attaché de Donald Trump. Puis il change de nom comme ça. Alors, bref, elle veut raconter sa liaison avec le président. Alors, lui, il dit que tout ça est complètement ridicule, inventé, et qu'il n'y a pas un mot à dire, puis qu'il n'est pas au courant, puis que ça ne le regarde pas. Mais disons que ça a pris... Au début, on était dans les petits potins, là. Mais là, ça a pris un peu plus d'ampleur, là, compte tenu que ça va se transporter devant un tribunal. 6h14, marquez là le résumé. Merci beaucoup. Dans les autres nouvelles, commission parlementaire à Québec le 20 mars sur les pitbulls. Et le débat va repartir, là. D'abord, on sait que l'administration de Valérie Plante est en consultation et qu'on a... tassé le règlement qui avait été passé par l'administration Coderre, qui visait les pitbulls. Puis là, on nous explique que ça crée un faux sentiment de sécurité puis que c'est une erreur de cibler les pitbulls. Je ne sais pas si on va avoir, parce que commission parlementaire 20 mars, là, est-ce qu'on aura le temps de faire adopter la loi avant l'été, donc avant l'ajournement, puis surtout avant les prochaines élections? Ou si on est dans un exercice là, qui va faire que ça s'étire. Puis là, je regardais dans la presse ce matin des gens qui vont se faire entendre là, pour cette commission parlementaire. Entre autres, la présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, qui, elle, est contre la loi qui s'attaque spécifiquement aux pitbulls. Et puis les Rottweilers également. Alors, elle dit non, 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 il faut... faire de la sensibilisation, il faut donner de la formation à des maîtres. On est d'accord, là, on est d'accord qu'un chien, là, va évoluer, se comporter en grande partie sous l'influence de son maître. Puis que si c'est un taré qui tient la laisse, puis qu'au bout de la laisse, t'as un chien comme un pitbull, il y a des chances assez élevées que l'animal soit une arme dangereuse. Mais une fois qu'on a dit ça, puis qu'il faut aller chez les éleveurs, puis s'assurer que c'est bien fait, puis qu'on n'achète pas des pitbulls sur des sites de petites annonces, on est d'accord avec tout ça, là. Mais on s'entend que les dommages de ces chiens sont quand même plus dévastateurs que d'autres types de chiens, d'autres races de chiens. C'est comme les armes à feu. Il y a des armes qui font plus de dégâts, puis qui demandent ont des autorisations différentes. Puis il y a des armes à usage restreint, il y a des armes qui sont interdites. Alors, je ne sais pas où on veut s'en aller, mais là, les vétérinaires nous disent que ce n'est pas le pitbull qui est le problème. Peut-être, mais on peut-tu avoir une réglementation qui va tenir compte de ces chiens-là puis de leur potentiel pour faire créer, en fait, des blessures très graves. Puis bon, il y a d'autres personnes qui vont témoigner, notamment le père de la petite fille qui a été... attaqué par le chien fou du fou de la Rive-Sud qui a finalement été condamné. Alors, ça commence le 20 mars. Toujours dans la presse, c'est une étude, il faut faire attention, là. On parle d'un échantillon d'une vingtaine d'enfants, mais ça mérite qu'on s'y arrête un peu ce matin. Alors, c'est une école de la Montérégie, l'école Jacques Barclay, où on a pris 13 filles et 8 garçons pour faire une expérience. Et l'expérience, c'était quoi? C'était de leur faire faire de l'exercice, genre de cours d'éducation physique, mais en tout cas, les faire bouger, travailler, et après ça, les faire dîner, luncher, en disant, est-ce qu'après avoir fait de l'exercice, les jeunes mangent moins et mangent mieux? Et semble-t-il que la réponse, c'est oui. Ça veut dire qu'après un effort, puis là, on pourrait l'appliquer. J'imagine, là, si on va en tirer une conclusion plus large, aux adultes, dans le fond, si tu veux manger moins, va t'entraîner à 11 heures le matin, puis fais ça pendant une heure, puis à midi, tu risques de moins manger. Si on pourrait penser le contraire, tu fais un effort, tu as peut-être plus faim. Ça a l'air que non. Il y a un effet après l'activité physique qui demeure pendant 30 minutes, une heure. Et tu manges moins. Et là, on a pris ces enfants-là, on les a observés, et l'hormone qui stimule l'appétit baisse pendant l'effort. Et ce qu'on est en train de dire, est-ce qu'on serait pas mieux de gérer les périodes d'activité physique pardon, des enfants, exemple les cours d'éducation physique, à la période là, qui précède la pause repas le midi dans les écoles. Ça demeure quand même une étude avec pas beaucoup de cobayes, là, mais peut-être une piste quand même intéressante de réflexion. Dans les autres nouvelles aussi ce matin, 1 milliard pour les routes montréalaises. Donc, on a fait plusieurs annonces. Le ministre des Transports, je vous le disais, sera avec nous ce matin. Aussi, il y a une petite augmentation des tarifs d'hydroélectricité. On est nettement en bas de ce que Hydro demandait, 0,3%. C'est quand même mieux, mais c'est une légère donc hausse que vous devrez absorber. Il y a aussi une nouvelle ce matin qui concerne le sympathique Ronald Weinberg, fondateur de la très distinguée compagnie Sinar. On nous dit ce matin que ce gars-là qui avait été condamné à 9 ans de prison pour fraude avec sa délicieuse épouse, on sait que Weinberg est un bandit. Le tribunal l'a confirmé. C'est un fraudeur. Et là, on apprend que monsieur va sortir de prison, va faire du bénévolat, pardon, des travaux communautaires, et au total, il va avoir fait 1 an et demi de prison. Alors là, vous avez la commission, donc, qui a examiné son dossier, et les gens ont regardé ça, puis recommandent, finalement, qu'il puisse obtenir une semi-liberté. Il va travailler comme consultant pour des amis, en plus de faire du bénévolat. D'abord, un, il regrette rien, là. Il n'y a pas de remords pantoute, dit-on dans le rapport, là. Il est assez insensible au fait qu'il a volé du monde, puis que c'est un bandit. Deuxièmement, il n'a pas suivi de thérapie particulière, ou il a fait un peu de cuisine en prison. Puis là, ce qui m'écœure, là, le plus, mais les lois sont ainsi faites, je cite le rapport, « Vous avez un excellent réseau dans la communauté. Vous n'avez aucune dette, ainsi qu'un fonds de pension. » Attends un peu, là. Lui, il a volé le monde. Puis là, finalement, il n'y a pas de dette. Ses affaires vont très bien. Puis il y a une belle retraite qui s'annonce. C'est un bandit. Mais c'est pas grave. C'est pas un crime violent, tu sais. Et ça a pris combien de temps de procédure devant les tribunaux? Il a volé Claude Robinson, puis je veux dire, ces gens-là sont des crapules ambulantes et arrivent parce que le système est ainsi fait à se trouver une place en liberté, un petit peu de bénévolat, puis profiter d'une douce retraite, finalement. Alors, c'est dans le Journal de Montréal que vous retrouvez ça ce matin, et aussi les efforts du Québec pour ce qui est de la réduction des gaz à effet de serre, c'est dans le Devoir, qui sont insuffisants. Et on dit que malgré là, les taxes qu'on paye, les taxes carbone, puis qui sont refilées sur l'essence, entre autres, là, ben, on est loin des cibles. D'ici 2020, selon un rapport d'étape, au mieux, on va peut-être stabiliser. Mais il n'y a pas véritablement de réduction. Pis on sait que le parc automobile augmente, que le transport a un impact aussi important et que la consommation de pétrole, par exemple, elle ne baisse pas. Ça fait le tour, 6h23, 40 secteurs de Repentigny.